Actu SF, les podcasts.
Bienvenue à cette table ronde de fin de journée sur les épéistes et les bretteurs en fantasy avec deux invités de marque, Charlotte Bousquet d'abord. Donc, je vais commencer par vous les présenter hein, avant qu'on entre dans le débat. Au cas où vous ne les connaîtriez pas, bien improbable, pour vous rappeler un peu le calibre. Donc Charlotte Bousquet est philosophe de formation, et puis c'est une autrice qui a abordé de nombreux genres, le roman historique, le polar, la BD, la dystopie, le western récemment, avec Celle qui venait des plaines chez Gulfstream. Puis c'est une grande amie du festival auquel elle participe chaque année activement, parce que en fait elle a toujours été fidèle aux littératures de l'imaginaire. Elle a commencé en écrivant des cycles de fantasy, Le cœur d'Aramanta chez Nestivenen à l'époque, bien entendu L'archipel des Numinés qui lui a valu sa pleine reconnaissance avec notamment un prix Imaginal. Donc c'était chez Mnemos et puis chez Helios. Et elle nous fait le grand plaisir de revenir à ses premières amours avec un nouveau cycle donc, qui commence chez Mnemos, enfin une série en deux tomes hein, pour l'instant sont annoncés, mais qui sait, quelquefois ça on sait que ces choses ça peut puis trois, puis quatre donc qui s'appelle Chara et dont le premier volume avec la belle couverture de Magali Delon est donc disponible. Et puis une autre grande dame donc de l'imaginaire américain cette fois, Helen Kushner, alors qui a malheureusement pour nous, peu de choses ont été traduites en français. Hein. On a de vous que deux romans, mais qui sont d'excellents romans que je ne saurais trop recommander. Parce qu'ils ont vraiment marqué en profondeur l'imaginaire. On s'en rend peu compte de notre point de vue, mais quand on les de notre point de vue français, mais quand on les découvre, on se rend compte que voilà, c'était chez elle que ça avait commencé. Donc c'était Thomas Rimmer, qui est un roman de 1990 inspiré d'une ballade écossaise qui raconte l'histoire d'une rencontre entre un poète et l'autre monde, le pays des elfes, hein, et comment il va en quatre récits vivre cette grande aventure sur un fond semi-historique du XIIIe siècle. Et puis celui dont on va parler aujourd'hui, donc Swords Point, hein, à la pointe de l'épée, qui date de 87 mais qui a été traduit seulement en 2008, qui est vraiment un roman qui est très important parce que il a connu des suites en anglais, et il a même lancé tout un mouvement qu'on appelle la fantasy maniériste, hein, la fantasy of manners, ou manner punk dans certains de ces sous-genres. Il y a des sous-genres de fantasy of manners donc qui sont centrés sur des intrigues, alors dans ce roman-là, des intrigues de cœur et de cour dans un monde alternatif qui évoque une période assez indécise entre le 17e et le 19e, un peu victorien et puis un peu de mousquetaire aussi, sans magie. Voilà, c'est de la fantasy sans magie, donc c'est quand même assez, c'est très original. Donc, voilà pour la présentation. Alors, les épées. Charlotte, les épées. Il y a de nombreux personnages d'épéistes qui traversent vos romans. Hein, est-ce que tu peux nous en présenter, est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes, parce que là on va alterner, est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes, et pourquoi cet attachement à ces personnages d'épéistes?
Alors,
si t'as pas les réponses, je les ai. Hein.
D'accord. Non, alors pourquoi alors on va partir du début, pourquoi les scrims? Moi je suis une... Je peux pas dire que je sois une passionnée d'armes blanches, mais je suis une dilettante d'armes blanches. J'ai fait de l'escrime quand j'étais à l'université. Et ce qui m'avait vraiment plu à l'époque, c'est que c'était le code d'honneur. C'était tout ce qui était respect de l'adversaire. C'était ce qui était vraiment lié au fait qu'on se bat, mais on se tue avec beaucoup d'élégance. Voire, c'est juste à la première touche. Alors, la réalité de l'université, c'était... J'avais un instructeur qui était obsédé par les compétitions, donc ça n'a pas dû... Enfin, je me suis beaucoup obstinée au point de faire 9 à 10 heures d'escrime par semaine, mais ce qui m'intéressait, moi, c'était la reconstitution historique. Et à l'époque, j'en ai pas fait. Du coup, je me suis vengée sur effectivement, des personnages de Spadassin, donc notamment... en tout cas, dans les univers de fantasy, en particulier Théodora, qui est Spadassin, qui est
dans Arachnae.
Dans Arachnae, oui, qui est son cette tueuse, plus ou moins, je crois quand même. Et qui est instructrice. Alors bon, elle, c'est plutôt me semble, enfin d'après mes souvenirs, c'est rapière et couteau. Hein, c'est ça. Voilà. Alors j'ai découvert il y a pas très longtemps ce qu'on appelle les AMHE, donc qui sont des arts médiévaux historiques. C'est surtout des recherches en live, on va dire. Je me suis rendu compte qu'effectivement le couteau c'était mon truc, et que ça permettait d'assassiner les gens de manière assez rapide. Donc voilà, j'ai des personnages aussi de Spadassin dans des romans historiques. Bon, notamment Vénénum qui n'est plus édité et Noire Lagune, et là de manière beaucoup plus réaliste, c'est-à-dire que Théodora et même dans Chara, j'ai un personnage pareil qui manie des longues dagues, mais c'est pas du tout réaliste. En revanche, dans mes romans historiques, quand on manie une rapière, c'est pour tuer de la manière la plus efficace possible. Et surtout éviter d'être blessé. Donc il y a vraiment dans mes romans, je pense, deux approches totalement différentes de l'escrime. Une approche, je dirais, romanesque, et puis une approche beaucoup plus réaliste et beaucoup plus sale. Voilà.
Hélène Kochner, alors l'épée est évidemment centrale dans la série dont le terme récurrent c'est Sword, hein, c'est vraiment l'épée, elle figure, je ne sais pas si on les voit bien, mais surtout toutes les couvertures, voilà, on est dans un monde organisé autour de combats à l'épée, hein, et autour d'une caste de bretteurs professionnels, et voilà, même question, pourquoi ce choix, donc pas de poète comme Thomas le Rimmer, mais de Saint-Vierre, un épéiste, dans le seul volume qui nous soit parvenu, c'est lui qui est au centre de l'intrigue.
J'ai quelques réponses différentes. Premièrement, car moi j'aimais toujours, dès que j'étais toute petite, l'escrime pour être héros, en fait. Je voulais moi-même être héros, et pas la petite dame, mais pour... C'est qu'on est un peu effective. Come near me. Stay by me. Just feed me some words. Okay. Et c'est de la pouvoir, c'est de la grâce, c'est de la romantisme, quoi. Et aussi un peu des contes fées. Des contes fées, des films, tout ça. Ça avait beaucoup de pouvoir pour moi. Et en fait, c'est ce qu'on aime partout quand on est toute petite. Bon, c'est comme ça. Alors, c'est pour ça que je m'intéresse un peu à l'escrime et aux épées. Et puis, après ça, quand j'écris Sword Point à la pointe de l'épée, j'étais très jeune et j'habitais à New York aux années 80. Et c'était dangereux où j'habitais, vraiment dangereux. Toute New York était dangereuse. Il y avait beaucoup de crimes. Maintenant, ce n'est pas comme ça du tout. Mais si vous vous souvenez, ou peut-être pas, je peux vous raconter des histoires. C'était dangereux aller dans la rue quand il faisait noir, quoi. Et j'ai rêvé vraiment de quelqu'un qui me sauvait pour que je pourrais, spécialement comme femme, marcher dans les rues sans crainte. C'est bon? Mm-hmm. OK. Alors, c'est pour ça que j'ai inventé Saint-Vierre.
Et son amant, c'est Alec qui pouvait dire ce qu'il voulait. Il n'avait jamais craint d'être tellement mauvais. Et c'était vraiment un peu pas comme ça. C'était la vie que j'habitais, sans épée.
Donc les Bordeaux, c'est c'est comme ça qu'est traduit.
C'était mon âme dit arrondissement à New York.
D'accord. C'est un lieu de son monde imaginaire, donc effectivement très, très mal famé et où se regroupent les classes les moins privilégiées et où effectivement il vaut mieux avoir quelqu'un qui vous protège ou bien savoir se battre pour s'en sortir.
Et moi aussi j'ai fait un peu d'épée, d'escrime à l'université, mais j'étais assez mauvaise, alors il me fallait quelqu'un d'autre pour me protéger.
Et du coup, vous êtes les descriptions de combat, ça repose sur cette expérience personnelle, ou est-ce qu'il y a aussi de la documentation historique, ou est-ce que vous regardez des vidéos sur YouTube, enfin je ne sais pas pour savoir comment décrire ça.
Pour ce qui est historique, en fait je me suis intéressée. Alors je suis aussi rôliste, donc je fais des jeux de rôle. Dans ces jeux de rôle, il y a notamment les secrets de la septième mer où on peut jouer des spadassins héroïques qui plairaient énormément qu'est-ce que j'ai fait, je pense qu'il y a une au départ effectivement de la documentation sur l'escrime du XVIe siècle, mais ça remonte à très longtemps. J'ai une bible absolue en jeu de rôle qui est un jeu de rôle historique de pirates qui s'appelle Pavillon Noir, mais il y a un supplément entier sur l'escrime. Donc ça, c'est absolument génial. Il y a effectivement l'expérience d'escrimeuse, mais là, je dirais beaucoup plus pour tout ce qui est combat réaliste. Et après, il y a qu'est-ce que je peux faire à mes personnages. Et à partir du moment où je dirais je respecte la distance, c'est-à-dire que effectivement on va pas se battre dans une cave avec un cimetière. Voilà, ça me paraît. J'essaie de faire des trucs plausibles, mais je me laisse vraiment aller. J'aime bien la technique aussi dans le côté très cinématographique, l'entraînement de Zorro. Dans le film, dans Zorro avec
la
ce
Zorro.
Qui est le deuxième. Alors le premier c'est le masque de Zorro. Donc avec le voilà, avec cette technique du cercle qui est en fait très mathématique.
Explique-nous.
Et ben en fait.
Démo, truc, je venais en.
Ben non, mais
en
fait, en fait le truc c'est de rester de vous êtes au centre d'un cercle, plus on est avancé en fait en escrime, moins on bouge et on calcule tous les mouvements et ça se passe comme ça. Et là, je me sens très très ridicule. Et voilà. Et en fait, il y avait vraiment il y a plusieurs écoles. Il y a l'école italienne en escrime, donc avec si je dis pas de bêtises, je crois avec deux armes. Rapière main gauche, c'est plutôt en France. L'escrime italienne, c'est encore autre chose. Et donc en Espagne, c'était vraiment ce côté cercle mathématique. Et voilà. Et après, ça fait un grand, grand flot lumineux. Et pour Chara, donc pour le personnage de Diane, qui elle est en transe. En fait, elle a une espèce de transe qui lui permet de. C'est à la fois un mélange de danse, de transe et d'art des couteaux. Là, par contre, c'est complètement inventé. Je me suis jamais mise en transe quand je me battais contre quelqu'un.
Oui,
donc là, c'est vraiment de la fantaisie, de l'imaginaire. Ça correspond à l'univers. Je dirais que la seule chose qui est réaliste, c'est que la première fois que Jeanne est mise dans des conditions réelles, puisqu'elle a toujours appris chez elle, c'est une technique, la rame qui se transmet de père en fils, ou dans l'occurrence de père en fille. Le jour où elle est confrontée pour la première fois à des vrais tueurs, elle lâche son arme et elle est complètement figée. Comme je pense les trois quarts des personnes seraient complètement figées, parce qu'il y a une énorme différence entre se battre pour un entraînement et tuer quelqu'un.
Effectivement, dans ce premier volume, son art ne sert pas vraiment à Diane à se protéger de ses bourreaux.
Non, il y a un moment donné, effectivement, à force de s'en prendre plein la tête, elle a un déclic, Mais il n'y a même plus de grâce dans ce qu'elle fait. C'est vraiment juste de la survie. Et je dirais que les, paradoxalement, les personnages qui ont le moins de scrupules à tuer, dans mes romans, à part Théodora, mais Théodora, c'est son boulot, c'est mes héroïnes de romans historiques. Donc en particulier donc Flora, qui a une scène de duel à la fin de Noir Lagune contre des, contre un méchant, je ne sais plus. C'était en 2010, il faut me pardonner. Où là, elle tue. Bon, ben voilà. Et Anya, dans Venenum, tue aussi. Voilà, Yana. De manière. Yana ? Ok. De manière assez rapide, abrupte.
C'est la spécialiste de Charlotte Bousquet.
Oui, c'est ça. Même si, voilà, elle a beaucoup de panache dans ses combats et que j'ai fait vraiment un récit de KPDP, c'est quand même le plus réaliste possible, quoi. Donc c'est sale.
Oui, où on suit son entraînement. Ouais. Effectivement, on la voit apprendre l'escrime auprès
voilà.
d'un maître.
Et là, c'est du vrai. Voilà.
Alors, Saint-Vierre, il duelle, je ne sais pas comment on dit, pour tuer. Lui, voilà, son objectif... Enfin, il existe dans ce monde des duels au premier sang, mais ce n'est pas à cela qu'on assiste. Et en même temps, on assiste à assez peu de duels, en tout cas dans le premier volume. La première scène est emblématique, qui commence après le duel, qui est voilà, très, très fameuse, enfin très marquante, qui commence sur une tache de sang dans la neige, hein, comme dans les romans médiévaux, et donc on arrive après ce duel extrêmement spectaculaire. Est-ce que vous donc aussi vous entraînez pour, enfin vous documentez pour décrire ces scènes-là? Est-ce que vous aimez les décrire ou est-ce qu'au contraire vous les évitez, vous tournez autour? Quel est votre rapport à cette à ces scènes à faire, hein, qui ce sont les scènes de duel?
Get your microphone ready. This is too difficult. C'est trop difficile. Ça, c'est un peu compliqué, un peu technical. Alors, il me faudra traduire. I believe the way that you understand reading is through illusion. Art is illusion, okay? L'art, c'est l'illusion.
Donc, l'art, c'est de l'illusion. Donc, y compris en littérature, de faire de la description, c'est de l'illusion.
So my job as a writer is to create illusions that are believable.
Donc, en tant qu'autrice, son boulot, c'est de décrire des illusions, mais auxquelles on peut croire. Donc, en sachant que c'est une illusion, et quand vous la lisez, vous savez que c'est une illusion, mais il faut pouvoir y croire. Il faut que ce soit crédible.
So I am less interested in the exact movements of a sword fight than I am in making you feel that you are seeing a real sword fight.
Donc elle est moins intéressée en, ok, bon, si c'était des vrais escrimeurs, ils feraient ce mouvement-là, et puis ensuite ce mouvement-là, et la chorégraphie. Non, ce qu'elle veut, c'est que quand vous lisez le passage, vous dites, ok, ça c'est un combat, vous l'imaginez, vous êtes là, vous voyez ce qui se passe, et vous pouvez le ressentir. Pas dans le sens réaliste où vous voyez, ok, gauche, droite, avec la technique, par exemple, de mathématiques, mais vous êtes là, vous le sentez, vous le ressentez, vous voyez ce qui se passe, vous imaginez le combat.
Merci. Et aussi... another thing is that all art, writing, but all art, is making choices. And so therefore, my job is also to choose the right detail, the right moment, the right movement, the right thing the eye sees or the ear catches, to again create that sense of what it's really like if you are really experiencing this thing.
Donc, en tant qu'artiste, et y compris écrivain, c'est faire des choix. Créer de l'art, c'est faire des choix. Donc, en écrivant ces scènes, il faut faire des choix. Ok, sur quel détail je vais accorder plus d'importance pour que vous, en lisant le roman, vous soyez là, vous sachiez ce qui se passait, vous ressentiez ce qui se passe, plutôt que de faire vraiment du réalisme. C'est à quel détail se accorder le plus d'importance, faire des choix.
So I guess I write more from the inside, that I almost become a character or I become a person watching and I just imagine what it's like.
Donc elle écrit comme si elle était un personnage ou comme si elle était dedans. Donc elle écrit pas depuis l'extérieur pour faire des descriptions, elle écrit comme un personnage qui est à l'intérieur, qui voit ce qui se passe, qui ressent ce qui se passe dans l'action.
But this is not to say I don't do research also.
Mais elle fait quand même des recherches.
I can go on. Je peux continuer, si vous voulez. J'ai étudié un peu l'escrime, j'ai lu quelques livres et surtout on regarde des images. Et aussi, on va au film mm-hmm. avec de bons escrimes, car l'escrime moderne, ce n'est pas l'escrime du 17e, quoi.
Oui. Justement, pour reprendre sur vos inspirations, tout à l'heure, vous parliez de films qui avaient bercé votre enfance. Alors, tu as cité Zorro, le masque de Zorro. Bah, c'est tout de même. Est-ce que c'est des inspirations littéraires aussi, là, les romans de KPDP. Est-ce que ça a été important pour vous, les Dumas et autres, les Bretter ou est-ce que c'est l'époque historique, puisqu'il y a beaucoup d'inspiration de la Renaissance italienne chez vous, Charlotte Bousquet, qui impose, enfin, qui, voilà, ou alors qui permet d'avoir ce genre de personnage?
Au niveau des films, je vais peut-être faire bondir, mais j'avais adoré La fille de D'Artagnan. Non, mais franchement, c'était trop bien, quoi, avec le maître d'Artagnan. Donc, voilà, mais...
avec Sophie Marceau.
Oui.
Je l'ai vu.
Non, mais voilà. Les chevaux sont très beaux aussi, mais bref. Alors, après, au niveau cinéma, oui, donc Le Masque de Zorro. Au niveau littérature, en fait, ce serait peut-être plus la série À la tristesse de Arturo Pérez Reverte. J'ai découvert Dumas sur le tard, j'ai fait un blocage pendant des années. Et alors, non, Dumas ne m'a pas inspirée du tout. J'adore Le Comte de Monte Cristo, les Trois Mousquetaires, c'est juste une bande de violeurs, donc j'ai du mal. Mais voilà. Après, ce serait beaucoup plus... j'ai l'air de plaisanter, mais quand on lit avec un regard d'adulte et plus avec du recul, Les Trois Mousquetaires, Athos est un sociopathe, D'Artagnan est un violeur, Porthos est un opportuniste sans scrupules, et les deux, finalement, qui sont à peu près normaux. Enfin, c'est Aramis qui a ses histoires avec la Duchesse de Chevreuse, mais qui est, a priori... pas très non violent, écrit de la poésie, refuse, enfin bon, à peu près normal. Et Milady qui a finalement les réactions normales de quelqu'un qui a échappé au viol, au meurtre, enfin voilà, c'est... Mais voilà, c'était juste la petite digression sur Dumas. J'aime vraiment beaucoup Le Comte de Monte Cristo sinon. Voilà, et après je dirais que mes vraies inspirations, c'est vraiment, vraiment, vraiment les jeux de rôle. Parce que le fait d'incarner un personnage de jeu de rôle, et en particulier... les trois quarts du temps, c'est effectivement des spadassins. En particulier, Les Secrets de la Septième Ère, qui sont vraiment... c'est un jeu de KPDP qui se passe dans un 17e, 18e siècle imaginaire, avec des écoles d'escrime, avec des vrais vilains, mais des vilains comme on les adore. Je pense que c'est plus là que j'ai pu puiser effectivement des inspirations.
Ton imaginaire ouais,
et la relation et bon et la Renaissance italienne, c'est parce que c'est la Renaissance italienne et la courtisane, si la courtisane quand même, oui. c'est un bon film. Mais après c'est vraiment plus pour l'ambiance, pour l'époque, pour l'art, pour Venise.
Ouais, bon, okay. Plus ou moins.
Alors, vous m'avez donné assez de temps de réfléchir.
Voilà.
Alors, pour moi, les films très très importants, tellement importants que je l'ai presque oublié. La première, c'est le Roméo et Juliette de Zeffirelli.
Oui.
Des très c'est très joli.
Ils sont beaux tous les deux.
Ouais. Oh, incroyable. Et pardon. Et après ça, c'était les Trois Mousquetaires de. Bref, avec Faye Dunaway et tout ça, c'est de qui? C'est de...
Oui, je vois lequel.
Vous le connaissez en France?
Oui.
Un peu?
Oui,
okay.
On l'a vu.
Bon. Oui. Okay. Oui,
c'était incroyable pour moi, et je n'ai jamais lu Dumas à cet âge. Mais ce film est tellement fidèle à Dumas, avec son insouciance, et même la comédie, et aussi les choses assez amorales, on dirait, que ça m'a frappé. Et après ça, avec les livres, surtout, en quelque part, À la pointe de l'épée, c'est une réponse au livre historique d'une femme, je ne sais pas si elle est traduite en France, elle est écossaise, et qui s'appelle Dorothée Dunnett, D-U-N-N-E-T-T.
Ça ne me dit rien.
Oui, ok. Alors, ce sont six livres de 600 pages chacun, et c'est dans le c'est dans le 16e, en Écosse et aussi en France, et aussi en Turc, c'est partout, et ils sont formidables.
D'accord. D'honnête. On regardera ça. Et donc, vous avez aussi mentionné toutes les deux une élégance de de l'épée. Est-ce que ouais, se tuer à l'arme à feu, ce serait trop violent ? Ce serait pas joli.
Oui.
Toi, alors, pour Charlotte, ça ne peut pas être la réponse ne peut pas être oui, parce que les gens s'y font tuer très salement.
Oui, mais quand même. En fait, j'étais en train de penser à Cyrano de Bergerac, et c'est moralement que j'ai mes élégances. Cyrano. Ah, on a Cyrano
bien
quand
sûr,
même.
Cyrano
ouais. Forcément, Cyrano. Ouais. Mais en fait, j'ai un blocage avec les armes à feu. Alors, je les utilise dans celles qui venaient des plaines, de manière crade, je te l'accorde aussi. Mais je trouve que même si l'arme blanche, dans la réalité, bon, en fait, on meurt vite et salement, il y a quelque chose de beau dans l'acier. Dans le fait de l'acier qui teinte, dans je sais pas comment, non, puis non, mais non, c'est quoi ce truc d'aller se tuer, non, puis c'est un truc de lâche, quoi.
Mais on a récemment remarqué qu'il y avait un problème, notamment en France, à accepter ce courant de ce qu'on appelle la powder fantasy. Il y a la fantasy à la poudre. Ça existe, il y a un courant américain, mais alors ça prend, d'abord, ça prend assez peu, et ça prend peu en France. Et effectivement, l'épée, c'est un symbole de la fantasy, et d'ailleurs, dans Swords Point, c'est pratiquement, il n'y a pas de magie, mais comme il y a des épées, ça va être de la fantasy.
C'est ça, il y a des gens qui disent que Swords Point, il a l'air de fantasy, et il le défend, il le défend, car c'est pas défendu, il le défend comme fantasy, et quand même, je sais moi-même que ce n'est pas vraiment du fantasy, il n'y a pas de magie, mais en même temps, il a l'air de fantasy, et je crois que c'est pas... Parce qu'il a des règles et il y a du style. Le style, c'est ça qui devient manner punk, on dirait, ou le style de manière. C'est qu'en fantasy aussi, le style et les règles sont très, très importants. Et I turn up the gain. I make it louder. Turn up the gain is a technical term. Ça existe en français?
Ouais. elle est allée un cran au-dessus. Elle a pris ce qu'il y avait, elle l'a fait encore plus.
Ok, avec tout ça, pour qu'il a l'air presque de magie, et j'ai inventé moi-même, c'est pas nécessaire, j'ai inventé moi-même le style de, pas de l'escrime même, mais pas des bretteurs même, mais la code des bretteurs et la code de la ville dans qui les bretteurs, mes bretteurs, Saint-Vierre et tous ses amis, ils existent. Il y a des règles qui ne sont pas les règles de notre monde, de notre histoire, et c'est pour ça aussi que c'est une société où... on dit toujours l'escrime, ou ça veut dire... Ok, où l'escrime est très... ok, I give up. where the rules are different and they're, because they come from a different society.
Les règles sont différentes pour l'escrime parce que c'est pas le même groupe social, c'est pas la même société.
Merci.
Alors vous êtes, je passe à un autre groupe de questions, vous êtes toutes les deux parmi les femmes, les autrices qui se sont engagées très tôt, de manière pionnière pour ce qui concerne Hélène Kushner, et puis avec une passion militante pour Charlotte, pour une meilleure représentation des orientations et des identités genrées et sexuelles. Et alors c'est intéressant parce que l'épée, c'est quand même le symbole phallique par excellent. Enfin, c'est au départ, c'est le cliché même d'une fantaisie virile. C'est le barbare avec sa grosse épée, non ?
Traditionnellement, peut-être, mais pas toujours. Pas toujours. Il y a le 18e, le 17e. La fantaisie, quand ça commençait, c'était beaucoup barbare, mais il y avait toujours des styles différents. Ils ne sont tellement bien connu par les gens ordinaires, mais les gens qui aiment bien la fantasy, pour moi, c'était aussi... vous connaissez ici Fritz Leiber, Leiber et le Pfafford et le souris gris. C'était ça, pour moi, c'était aussi une grande influence. Il était très... bon, il y avait le barbare, mais le petit homme, très, très... qui avait beaucoup d'esprit avec son... little sword, épée, son petit épée, ça aussi c'était de fantasy traditionnelle quand j'étais jeune.
Est-ce que vous, Charlotte, vous avez eu l'impression de vous réapproprier un symbole pour le mettre dans les mains de femmes? Parce que c'est quand même, enfin voilà, c'est, de mon point de vue, c'est assez frappant.
Je n'avais pas pensé. en fait, au niveau du symbole de pouvoir et tout ça, dans l'archipel de Numiné notamment, le fait que les femmes se fassent des politiques et le droit d'être aussi pourri que les hommes, c'était vachement important pour moi. J'avais pas du tout pensé que l'épée puisse être un symbole phallique, donc des fois je dois être un peu obtuse. et après, non, je crois que c'est simplement que j'ai essentiellement des personnages, mes personnages principaux sont essentiellement féminins. Et pour moi, j'ai envie de dire que l'escrime n'a pas de sexe. Alors après, si je gratte un petit peu, quand je faisais de l'escrime, les femmes n'avaient pas le droit de faire de compétition de sabre, donc probablement ça m'est resté au travers de la gorge, c'est sûr. Quand on regarde l'histoire des femmes, l'histoire de la guerre, on découvre de plus en plus que les femmes, en fait, participaient à la guerre, savaient utiliser des armes, défendaient leur terre quand leur mari était en croisade ou ailleurs ou mort, et que ça a été complètement occulté jusqu'à très très récemment. Donc il y a probablement une énorme part militante qui est, alors sur le coup, très assumée, mais qui n'était pas totalement consciente sur le coup. Mais non, en fait, c'est vrai qu'une grosse épée, barbare, tout ça, cliché. Oui, non, mais maintenant que vous le dites. Mais les miennes ont quand même beaucoup plus des rapières et des cimetières.
Mmh. Ouais.
Et est-ce que je peux vous dire que, aussi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, et le second livre dans cette série, que j'espère sera un jour traduit en français, s'agit exactement de ça. C'est une jeune fille, elle ne veut pas apprendre l'escrime, elle ne veut pas être bretteur, mais le duc lui donne une ordonnance, et bit by bit,
petit à petit,
she learns... both to enjoy the physical activity of the sword and to recognize the power that it gives her.
Donc elle est forcée. Donc elle est forcée d'apprendre l'escrime, mais petit à petit, ça, ce pouvoir que ça lui donne. What did you say?
Oh, I'm sorry. She learns to enjoy the physical activity, mm-hmm. and also to recognize and appreciate the power that having a sword gives her in this society.
Mm-hmm. Et donc, au sein de cette société, plus elle en apprend, plus elle a cette expérience physique de s'entraîner, elle apprend à aimer, à apprécier ce pouvoir physique que tenir une épée et savoir la manier lui donne dans cette société.
Effectivement, enfin, je reviens à vous, Charlotte Bousquet. C'est on voit que la pratique d'un art martial, quel qu'il soit, c'est souvent chez vos héroïnes une question de maîtrise, une façon pour elles de tenter de maîtriser leur destin dans des univers qui sont d'une extrême violence, notamment envers les femmes. Il y a effectivement, comme le disait Hélène, une question de pouvoir derrière cette pratique. Je pense notamment, même si c'est un roman historique, au personnage donc de Yana dans Venenum, qui apprend, qui développe volontairement ce talent à un moment où elle se travestit en homme.
Et puis elle était déjà, c'était la pupille de Descartes. Descartes était escrimeur. Et beaucoup moins dans la vraie vie, beaucoup moins macho que la plupart de ses contemporains, mais c'est une manière, effectivement, c'est surtout une manière de devenir complètement autonome et indépendant, donc effectivement savoir se défendre et savoir tuer, c'est une manière, comme vous le dites, de maîtriser son destin, et de pouvoir, je dirais, marcher tranquillement dans l'existence, suivre son chemin et être totalement, totalement indépendante. Dans Shara, Jian apprend en fait la rame parce que, à la base, son père n'avait pas d'héritier. les Téchites sont un peuple qui sont, enfin voilà, on va dire que c'est les plus dans cet univers, c'est les plus sexistes, conservateurs et arriérés, et en même temps ils développent de la poésie, des arts, ils sont très contradictoires, mais en tout cas en l'occurrence le père de Jian lui apprend l'art de la rame, qui est un art secret hérité des djinns. Parce qu'il a besoin de transmettre ce savoir. Et en gros, la première chose qu'il fait quand il a un héritier avec sa seconde épouse, c'est se dire « zut, non mais en fait, ça serait bien de la marier, et puis surtout que de la faire taire, et puis alors que ça va être pour elle, finalement, c'est ce qu'il a défini. » Et c'est ce qui va aussi lui permettre, au bout d'un long, 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 long moment de maturation, de s'en sortir.
Mais non, ça n'est pas du tout long, ça passe très vite à la lecture.
Merci. Non, mais c'est vrai qu'elle galère beaucoup. Mais donc voilà, c'est vrai que... Et pour Flora, je dirais que c'est... Ouais, Flora, la maîtrise des armes, et la maîtrise des armes dans l'Italie du XVIIe siècle, pour les courtisanes, c'était logique. C'était un moyen de se défendre. Et c'était aussi un moyen, c'était aussi une transgression, je pense.
Oui, puis pour dans Arachnaï, pour Théodora, c'est aussi, voilà, ça lui permet de mener la vie complètement libre et libertine, et voilà, de mener sa vie comme elle l'entend.
Mais
au
y
départ,
a pas
elle le revendique. Voilà,
oui,
revendique,
mais alors, elle, il n'y a pas de question de sexisme.
Non.
C'est que de toute façon, elle a été éduquée pour ça, elle est douée pour tuer, elle est douée pour se débarrasser le monde de créatures assez malsaines au premier abord, et puis de pouvoir effectivement passer ses nuits dehors, se saouler, se droguer et éventuellement tuer quelqu'un si elle est suivie de trop près dans la rue. Mais c'est pas, elle a pas, enfin Théodora pour moi est quelqu'un qui n'a pas du tout le panache de Yana par exemple, mm-hmm. ou parce qu'elle est, c'est très utilitaire, c'est quelqu'un qui est, je pense que, enfin pour moi Théodora est la personne qui est la plus proche de son arme, enfin minéral, enfin acier plutôt, mm. voilà.
Oui, ce qu'on pourrait, dans une certaine mesure, dire aussi de Saint-Vierre, s'il n'avait cette relation avec Alec, qui l'humanise progressivement à nos yeux de lecteurs, jusqu'à ce qu'on comprenne, ce qui les attache. Chez vous, Hélène, je trouve que l'épée, c'est le support d'une réflexion, donc il va peut-être falloir traduire, c'est le support d'une réflexion sur le pouvoir et sur le où est le véritable exercice du pouvoir, hein, puisqu'on a d'un côté ces bretteurs qui ont un pouvoir de vie ou de mort, hein, mais qui en même temps sont inféodés à des contrats, à des codes qui tuent sur commande sans savoir pourquoi et qui se retrouvent en fait à être des pions sur un échiquier, parce que les nobles ne respectent pas du tout l'honneur des bretteurs que Saint-Vierre justement essaye de défendre. Donc il y a deux formes de pouvoir dans Sword's Point.
La vraie pouvoir de pourrait tuer quelqu'un avec un épée et de ne pas avoir peur aussi, ça. Il était tellement confident, Saint-Vierre. Et puis le pouvoir de l'État et des gens. Et aussi, une troisième peut-être, c'est le pouvoir de la pensée, le pouvoir de l'honneur, qui n'existe pas vraiment, mais qui existe très, très beaucoup pour mon héros, mon anti-héros.
Et puis, il y a le pouvoir que représente la duchesse de Trémontaigne, qui est un pouvoir de manipulation, de séduction,
oui.
un pouvoir profondément politique.
Oui, absolument. Un pouvoir caché aussi.
Oui.
Pour les femmes, le pouvoir doit être caché dans ce livre, ça change dans les autres, mais oui, c'est vrai. On pourrait dire peut-être aussi, il y a beaucoup de sexe dans ce roman, et on pourrait dire que toutes les choses qui se passent sont une réflexion sur le pouvoir, même le sexe. On dit ça, le sexe ? Ok.
Et donc ça évolue comment dans les autres, dans la suite de la... Puisque nous ne la connaissons pas encore, et donc je viens de découvrir et je voulais vous présenter la suite de la série, donc qui est rédigée par de plusieurs auteurs et autrices, donc Hélène Kushner et Alayado Johnson, Malinda Lowe, Joelle Defner, Rachelin Maltese. Donc la série s'appelle Trémontaigne, donc qui est une des maisons de l'univers, et elle est disponible en ligne sur
en ligne. ligne. Et les premiers, ce sont
des longues nouvelles dessinées.
Des nouvelles qui sont linked. I used to know this word. Oh well.
Reliées.
Reliées. Oui, oui. Ce sont des nouvelles reliées. C'est une très grande histoire qui est fait des nouvelles en série. Et ça s'agit. C'est vraiment une pas une sequel, but a prequel.
Oui, préquel.
Préquel, ok. Ouais. Car ça s'agit de la vie de la jeune duchesse Trémontaine, qui est un peu plus âgée dans Swords Point.
D'accord. Okay. Et dans les volumes suivants, est-ce que vous pouvez nous en dire
Ils sont vraiment suivants. Mais,
d'accord.
Ça s'agit des années avant le roman.
Et alors, la dernière question que je vous poserai, c'est dans le roman, l'expression à la pointe de l'épée est réutilisée par les personnages de politique noble qui sont sur la colline, donc qui est la zone où se font les intrigues de cour, où il dit que chacun, notamment chacun des personnages de ce roman, vit à la pointe de l'épée, et que donc voilà, c'est une manière plus général de parler de la position de vos personnages dans ce monde, et dans quelle mesure, enfin comment vivent-ils tous à la pointe de l'épée, à la pointe de votre plume, ou est-ce que vous pouvez à tout moment les exécuter?
Bon, dans le roman même, c'est que tout le monde veut être veut avoir du pouvoir, et que personne n'ait pouvoir sur eux, n'est-ce pas? Alors mais quand ils when you find out what someone truly cares for, and you threaten that, then you have them at sword's point. You have them vulnerable. You have them where they cannot necessarily defend themselves.
Même si vous avez le pouvoir au départ de trouver le point faible de la personne en trouvant ce à quoi ils tiennent, leur petit secret, la chose qui est la plus précieuse pour eux. Alors c'est là que vous reprenez le pouvoir, et c'est là que vous les avez à la pointe de votre épée, parce qu'ils sont à votre merci.
Charlotte Bousquet, est-ce que ça vous parle, cette histoire de personnages donc, qui sont toujours en position de vulnérabilité potentielle, c'est-à-dire qu'à tout moment, c'est votre pouvoir, mais c'est aussi votre pouvoir d'autrice, hein, mais aussi les nécessités de votre narration, qui va constamment les mettre comme ça dans une position de danger extrême dont ils ne peuvent se ressortir après qu'avec de personnages qui sont tenus à la pointe de l'épée.
Je ne sais pas trop, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai la notion de jeu en tête en permanence. Le fait que l'escrime, c'est aussi un jeu... Alors oui, à la pointe de l'épée, mais un jeu avec l'autre. Hein. Ça peut être perçu comme une danse et un jeu avec la mort aussi. Mm-hmm. Est-ce que... il y a effectivement, comme vous le dites, des nécessités qui font que, comme on écrit un roman, on est bien forcé de les mettre dans l'embarras. Mais pour moi, un des éléments essentiels à l'escrime, sauf dans Chara où il n'y a pas de code, il n'y a pas ces codes d'honneur là, mais en tout cas dans mes romans historiques, c'est vraiment quelque part c'est le panache qui reste. Et même si on meurt avec panache. Et même si en tant qu'autrice, je décide de faire mourir un de mes personnages, non, il le fera pas avec panache, mais en tout cas, voilà, on va dire que si je il y a une histoire de panache, en tout cas, quelque part. Et il y a une histoire, il y a vraiment une histoire de jeu avec l'autre, de jeu avec la mort, du fait que quand on affronte un adversaire en duel, il y a vraiment tout ce truc qui se fait dans les jeux du regard, dans le fait du sentiment du fer. Donc c'est le titre d'ailleurs d'un roman de Jean-Philippe Jawroski, mais où effectivement on a ce côté vraiment presque charnel de la lame, de la lame l'une contre l'autre. Et après il y a il y a les nécessités de l'écriture qui font que c'est beaucoup moins, parfois beaucoup moins romantique et beaucoup plus brutal, effectivement. Et dans Chara, en fait, donc la rame est vraiment présentée comme un art, et il y a vraiment ce côté gracieux, cette danse avec ses poteaux, et elle finit, enfin, à un moment de son parcours, Jeanne est dans des arènes et en fait c'est une exécutrice. Et alors elle utilise la rame sans aucun problème, sans aucun scrupule, sans aucune poésie et sans aucun jeu surtout. Et pour moi, vraiment, dans le côté à la pointe de l'épée, dans le côté vraiment, il y a le swordplay. C'est vraiment, c'est ça, c'est le jeu. Et quand il n'y a plus le jeu, j'ai envie de dire qu'il n'y a plus le feu sacré et il reste la mort. Donc je ne sais plus si c'est très cohérent à 7h du soir, mais voilà.
Si, c'est très bien comme mot de la fin. Un art, une danse, un jeu voilà, et une façon de donner la mort quand il le faut. Et je retiendrai de vos deux proposition que toutes les deux vous avez parlé de marcher la tête haute, hein, de ce qui permettait de ne pas avoir peur quand on avance. Voilà, merci beaucoup pour cette table ronde de deux grandes duellistes, deux grandes romancières.